Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous sommes le vendredi 29 mai, le déconfinement arrive et on va évidemment en reparler à 11h avec vous. Bonjour Gilles Gansman, vous allez bien ?
Bonjour Valérie, comment ça va ? Oui, très bien. Ben,
très bien.
Je prépare mes crèmes pour aller bronzer bientôt dans les parcs et partout.
Voilà, mais avec un masque, ça va être très bien. Vous allez bronzer du crâne. On va recevoir Chantal Latsou dans un instant. Chantal Latsou qui va nous parler de ce spectacle inédit qui sera diffusé sur C8, soirée spéciale Festival du Rire de Liège. C'est elle qui en est à l'initiative. Elle sera avec Jean-Philippe Janssen sur scène. On va parler de tout ça avec elle. Et puis, je pense qu'elle pourra nous dire aussi quelques mots de Guy Bedos. On aura également Rémi Pernelet pour les dernières infos médias. J'allais dire Gilles Gansman. Non, vous ne faites pas encore les livres. C'est l'effet du déconfinement. Et puis Gérard Collard.
Pour parler
livres avec nous. Les audiences d'hier soir, eh bien, écoutez, étonnamment, le carton, c'est pour Les Bronzés. Les Bronzés,
ah,
4 705 000 téléspectateurs, 1 million de plus que la semaine dernière et surtout 1,5 million de plus que la dernière diffusion des Bronzés en juillet 2019, comme quoi on a vraiment besoin de rire et de se divertir. Deuxième position, c'était Cassandre, 4 244 000 téléspectateurs. Et puis, troisième position pour Envoyé spécial, 1 799 000 téléspectateurs. This Is Us marche un peu moins bien, même beaucoup moins bien que Why Woman Kill. La semaine dernière, vous savez, M6 diffusait le dernier épisode de cette série qu'on vous recommande très chaud. Avec Gilles, ouais, vraiment, c'est une super série. Allez la voir en replay. Voilà, 1 305 000 téléspectateurs. À signaler la conférence de presse d'Edouard Philippe, 3 410 000 téléspectateurs sur TF1. C'est au total 6 millions de personnes sur toutes les chaînes qui ont regardé le Premier ministre hier à 17h. Et puis,
les chaînes info, il faudra rajouter les chaînes info, Valérie.
Oui, il faudra rajouter les chaînes info, absolument. Mais et puis à signaler Cyril Hanouna, dont le jeu « Apprendre ou à laisser » fonctionne. Enfin, il est allé jusqu'à 21h34, me signale Rémi Pernelet. 1 038 000 téléspectateurs. On a,
Une énorme somme de gagnés, Valérie.
Ah, voilà.
Il y a eu candidat, si les gens regardent en replay, je ne le dis pas, mais il y a eu une énorme somme de gagnés. Voilà.
Oui, alors, on a Sonia en ligne avec nous. Bonjour, Sonia.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour
Chantal Latsou.
Elle n'est pas encore là, mais elle sera avec nous. Vous l'aimez bien, Chantal Latsou ?
Oui, parce que j'arrive à l'imiter, tout le monde rigole, alors vous savez.
Allez-y, faites-nous Chantal Latsou.
Bon, ben, c'est la meilleure des bandes. Enfin, il faut le dialogue. Avec un dialogue, j'y arrive. Sans dialogue, c'est difficile.
Bah, dites-nous, Akena, la reine des vérandas.
Akena, la reine des vérandas. Mais là, c'est pour ça que je suis sur les ondes, sinon j'arrive mieux, en général.
Ah, vous êtes intimidée, ben, on lui fera un petit coucou de votre part. Donc, hier, vous aviez envie de vous divertir ?
Oui, alors j'ai revu et revu encore, et ça me fait toujours rire, Les Bronzés. Voilà, ouais. C'est comme Les Visiteurs, hein. c'est un film culte maintenant, on connaît les scènes, mais c'est plus fort que nous, on rit, c'est super.
Et vous l'avez vu combien de fois ?
Oh, ça doit faire 3 ou 4 fois. Les Bronzés font du ski, j'adore aussi. Mais c'est super.
Bon,
c'est
une valeur. Ça vous a donné la pêche.
Aussi. Les films cultes, le genre de Noël est une ordure, tout ça.
Ah bah tous les films du Splendide, oui, absolument.
Oui,
écoutez, merci. Merci de nous avoir appelé, Sonia, et puis on va essayer de repasser, je sais pas si c'est possible, votre imitation à Chantal Latsou, elle vous dira ce qu'elle en pense, je sais pas si c'est possible, on va essayer en tout cas. Merci de votre appel. On va passer au zapping.
Au top à Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie, évidemment, c'est la nouvelle qui a fait le tour de la planète média. La disparition du comédien Guy Bedos, le roi du sarcasme et de la férocité, mais qui cachait un autre homme, comme le racontait à BFM le metteur en scène Jean-Michel Ribes.
Le souvenir que j'ai, c'est que c'était un homme, multiple, mais c'était surtout pas un ricaneur, c'était un vrai quelqu'un d'engagé, de très émouvant. En plus, il y a une phase de Guy Bedos que personne ne connaît, c'était un homme tendre, c'était un homme chaleureux qui adorait ses enfants.
Il disparaît quelques jours après son auteur fétiche Jean-Loup Dabati. Il restera évidemment l'interprète et l'auteur avec Sophie Daumier du fameux sketch La Drague.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Géno, attaque. Ça marche. Accroche-toi, Géno. La nuit est à nous.
Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors... drôlement incommodant.
Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la
plus moche. C'est culte,
hein. Ouais, c'est culte, ça rappelle beaucoup de souvenirs.
Mais oui. Il fut aussi le seul, Valérie, je ne sais pas si vous le saviez, à avoir un sketch diffusé avec, vous savez, à l'époque, le rectangle blanc, c'était dans les années 70, ouais. Et à l'époque, ça indiquait que le programme était interdit aux plus de 18 ans. Ce sketch, c'était « Toutes des salopes ».
Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces nanas. Ah, la vache. Qu'elles sont belles. Ah, les salopes. Salopes. Oh, oh putain, celle-là dit, oh la pute. Pourquoi elle file pas son téléphone sous la photo, cette pute. Je me serais dévoué pour venir l'aider à repriser son blue jean. Il est drôlement usagé, son blue jean, hein. J'aurais pas critiqué, mais c'est pas une première masse, hein.
Et donc, oui, et la question voilà. Aujourd'hui, serait-ce possible encore aujourd'hui,
notre époque,
à notre époque, le second degré. Alors,
regardez
quelque
le
chose
sketch
qui est
de
moins...
Bigard sur les salopes. Hein.
Oui, le lâcher de salopes, oui, non, mais c'est pas exactement la même chose, mais enfin, c'est, oui, pas compliqué. Un autre humour, une autre époque.
Une mort peut en cacher une autre, la mort de Guy Bedos, alors à totalement éclipsé celle du débuté Claude Goasguen, mort à 75 ans du Covid-19. Éric Ciotti lui avait rendu hommage.
C'était un homme de conviction, c'était une grande personnalité et j'ai une immense peine quand j'ai appris ce matin cette nouvelle. Nous étions dans l'inquiétude depuis plusieurs semaines. Goasguen était resté plusieurs semaines en réanimation. Il en était sorti, on commençait à être un peu rassurés. Et puis, on a été sidérés d'apprendre cette décision, cette nouvelle ce matin.
Et oui, ouais. Hein, hospitalisé en mars et mort en juin quand même, on voit la violence de la maladie. Ouais. Hier, le Premier ministre était peut-être inspiré par Paul Éluard en démarrant sa conférence de presse. Liberté, j'écris ton nom.
Au cours de cette phase 2, et je veux insister sur cet élément qui est important, la liberté, enfin, va redevenir la règle. Et l'interdiction constituera l'exception.
Enfin libre donc, Valérie, mais méfiez-vous, on n'a pas forcément fini avec le virus. Arnaud Fontanet, qui appartient au conseil scientifique, a joué les Cassandres dans cet aveu hier sur France 5.
Toutes les conditions sont réunies pour une reprise de l'épidémie, parce que comme on l'a dit déjà très souvent sur ce plateau, on est loin de l'immunité collective qui nous protégerait. Donc déjà, restons vigilants pendant cet été, regardons sur nos indicateurs comment ça se passe. Et puis à l'automne, là, vraiment, je serais très inquiet.
L'automne, c'est quoi?
L'automne, pour moi, c'est octobre.
C'est octobre.
On verra. Hier soir, alors c'était incroyable, M et toute sa famille, ses enfants, donnaient un concert en famille sur Instagram. C'était vraiment un moment magique.
Bienvenue au baptême de monsieur. Se voyant comme je t'aime, c'est trop blond.
Bon bah c'est dommage, hein. Peut-être avec le déconfinement deuxième phase, on va perdre tous ces concerts qu'on avait sur Instagram, tous ces sketchs, tout cet univers. Ça sera une parenthèse. Peut-être on sera nostalgique de cette parenthèse dans 2 ans, dans 3 ans. On verra.
Oui, mais vous savez, quelqu'un a dit ça, je ne sais plus si c'est. Il y a quelqu'un qui a dit ça et qui s'est fait allumer en disant oui, et les morts qu'il y a eu, etc. Ah. Et c'est vrai que, voilà, on peut pas dire. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, donc c'est vrai que ça a été une période compliquée pour beaucoup de gens, mais pour d'autres, ça a apporté des choses positives. Effectivement, vous avez entièrement raison. Chantal Latsou, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien. Écoutez, voilà, on va se sentir un peu plus libre maintenant, je crois.
Oui.
Ah, vous allez aller. Oui. Vous aviez dit que vous irez prendre un verre dès qu'on pouvait sortir. Vous allez le faire?
Ah oui, oui, oui. Allez m'asseoir dans un bistrot, même au bar, mais j'ai envie de voir du monde, en fait.
Oui. C'est ce qui vous a le plus manqué pendant ce confinement, Chantal Latsou?
Oui, c'est les réunions d'amis, de famille, de. C'est ce qui nous avait isolés complètement. C'était vraiment très dur, surtout avec mes petits-enfants qui sont loin, qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont en Hollande. Donc ça, j'ai hâte de les revoir, de les serrer dans mes bras, mes enfants aussi. Donc voilà, c'est ce qui est le plus dur. Oui.
C'est ce qui est le plus difficile. Vous avez tout de même... comment vous avez occupé vos journées pendant ce confinement?
Écoutez, j'ai retrouvé quelqu'un de très cher que j'avais pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai retrouvé le sommeil. Comme je suis toujours à droite à gauche, je fais 1000 choses à la fois, je suis un peu hyperactive, ben j'avais oublié de dormir en fait depuis de nombreuses années, et là ça m'a permis de me re-régler. Bon, la vie va reprendre le dessus, oui c'est pas mal hein.
C'est pas mal, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sommeil, on en parlait hier, ou qui ont eu un sommeil très perturbé pendant le confinement. Vous, c'est l'inverse. Bah écoutez, c'est formidable.
Ouais, je me levais très tôt. Par contre, je me levais très tôt à 6h du matin et je me couchais tôt et je faisais vraiment des nuits de 6-7h, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Incroyable. J'étais avec mon mari confiné et il était adorable. En fait, je me suis même demandé si c'était lui à un moment donné que j'avais emmené en confinement.
Ben oui, parce que vous n'aviez jamais passé autant de temps avec lui.
Non, parce qu'on se croise très vite, on est pour s'engueuler souvent et pour s'envoyer des mots vilains à la figure. Et là, d'une patience incroyable, un homme agréable, le jeune homme que j'ai connu il y a 47 ans en fait.
Oh, c'est merveilleux, quelle belle histoire. Et alors, vous allez pouvoir repartir dans quelques temps, remonter sur scène. Est-ce que vous en avez très envie, j'imagine?
Oui, j'ai très envie de remonter sur scène. A priori, les dates sont reportées, les dates de mai-juin sont reportées en octobre-novembre, mais si tout va bien, quoi. J'ai hâte de revenir sur scène. Comme tous mes camarades, je pense. Hein.
Vous avez été présente sur les réseaux sociaux ou ce n'était pas votre truc?
Si, j'étais un petit peu présente. J'ai beaucoup regardé. Je trouvais ça amusant. Ouais. J'ai été présente parce qu'on m'a fait des interviews et c'était très. Ça me prenait beaucoup de temps parce qu'il fallait régler les Zooms, les Discord, les Skype et tout ça. Moi, la technique, c'est terrible. Donc, je me suis retrouvée beaucoup la tête à l'envers. Mais ça m'a pris pas mal et j'ai appris des choses. J'ai appris, je postais des petites choses, des trucs amusants que je trouvais, ou qu'on m'envoyait, sur Instagram. Ouais. C'était très amusant.
C'était amusant. Alors demain, on va vous retrouver soirée spéciale Festival du Rire de Liège avec Jean-Phi Janssen, le drôlissime Jean-Phi Janssen. Vous êtes bien trouvés tous les deux. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce festival. C'est vous qui en avez eu l'idée Festival du Rire?
Non, c'est un festival qui rayonne énormément en Belgique, où beaucoup de Français, humoristes français d'ailleurs, participent. C'est le festival des Taloches, des Frères Taloches, le Vous Rire, qui est vraiment très très porteur, très 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 amusant, très très vivant. Il y a plein de monde. Ça dure plusieurs jours. C'est à l'automne et je connais les Taloches depuis très longtemps. On a travaillé ensemble et ils m'ont demandé, pense à une idée pour une soirée spéciale. Et on s'est accordé tous les deux avec Jean-Philippe Janssen pour faire une soirée musicale tous les deux. Moi, j'avais très envie d'avoir des plumes, je sais pas ce qui m'a pris par la tête. J'avais très envie d'avoir des plumes, d'être à moitié à poil, etc. Je sais pas pourquoi, c'est quand même...
Maintenant, je m'en vais.
C'est impressionnant, c'est vrai, une vraie meneuse de revue.
Vous avez des jambes sublimes. Vous avez des jambes incroyables.
C'est gentil.
Mais elle est sublime. Elle est sublime.
Ah non, mais elle a des jambes incroyables.
Ah bon, c'est vrai?
Oui, moi j'étais très épaté par vos jambes. Je vous le dis comme ça.
Écoutez, merci beaucoup. Et donc voilà, on s'est amusé à monter ce cabaret avec des gens qu'on aime bien et on a vécu. Puis c'est tellement amusant de travailler en Belgique. Moi, j'adore aller travailler dans ce festival parce que tout est simple en Belgique. Ouais. On veut un truc, ben, y a pas de problème, Chantal. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est vraiment, tout est simple, tout est amusant, tout se fait dans le rien. Il n'y a pas le stress parisien des émissions de télévision. Vous voyez, il y a une espèce de grande gentillesse, de grande patience, on s'amuse beaucoup. Voilà.
Il y a un humour belge?
Oui, il y a un humour belge qui est très, très amusant. Puis moi, je suis un peu à moitié belge, donc je connais bien les gens de Liège. Donc, les gens de Liège sont très calmes, ils ont une voix, ils parlent fort, comme ça. Il y a toujours jamais de problème, tout s'arrange terriblement bien. Donc, j'adore aller dans ce festival.
Et Jean-Philippe Janssen, alors, c'est une rencontre, pour vous, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Hein. Il a une histoire, il était venu nous en parler, il a écrit d'ailleurs un bouquin, mais il était steward à Air France, et puis aujourd'hui, il remplit des zéniths, quoi, avec un humour incroyable.
Ah oui, incroyable, c'est un garçon que j'ai rencontré aux grosses têtes, et tout de suite, ça a tilté entre nous, et on s'amuse beaucoup à demi-mot, parce que, étant ch'ti aussi, il est extrêmement drôle, quoi, parce qu'il a gardé cet accent comme chaud, qui vraiment, l'influence, et c'est extraordinaire, parce que moi j'adore cet accent-là, je l'ai connu toute ma jeunesse.
Ben oui, vous êtes né à Roubaix.
Je suis né à Roubaix, j'ai vécu à Tourcoing, mais j'avais un père qui parlait comme ça, parce que, et ma mère, qui était parisienne, m'a interdisait de parler comme ça. C'est-à-dire, elle me dit, si tu parles comme ça, tu es puni. Parce que pour une femme, je mange comme un matin, comme chaud.
Vous le retrouvez quand vous êtes avec lui, justement?
Ah ben oui, on le retrouve quand on est avec lui. Il est tellement, il a une faconde, il a une générosité, il est très très drôle. Après, j'aime beaucoup Jean-Philippe. Ouais. Ouais.
Et donc, vous vous êtes amusé, c'est un grand show burlesque, hein. On va retrouver beaucoup d'artistes, Stéphane Guillon, Éric Antoine, Caroline Vigneault, Laura Lone, on va
Chevalier,
pas tous les citer, Philippe Chevalier, il y aura Victor Vincent,
qu'on connaît bien,
Pierre-Emmanuel Barré, beaucoup de monde, et vous les mettez en valeur.
Voilà, je les présente, Fabien Ruiz qui fait un numéro de claquette extraordinaire avec moi, enfin parce que je suis une pro, vous verrez. Et donc Giovanni, les Belges, Manon Le Pomme qui est une jeune femme belge aussi qui est très drôle. Et voilà, et Renaud Rutten et tout ce monde-là, on va essayer de vous faire rire. Mais il y avait une tellement bonne ambiance que je pense que ça va passer à l'écran.
Oui, ça sent, on a eu la chance de voir l'émission avant. Et vraiment, les intersketchs que vous faites avec Jean-Philippe Janssen, où vous, évidemment, pour les sketchs, vous vous combattez entre vous, c'est vraiment très, très drôle. Et vraiment, je conseille les gens à regarder samedi soir. Vous allez passer,
une bonne soirée.
Et les
Chantal
plumes vous vont très bien.
Chantal Latsou, vous connaissiez Guy Bedos? Vous l'aviez rencontré?
Mais j'ai pas rencontré, j'ai juste effleuré, croisé comme ça, très peu sur un plateau de cinéma, mais c'est un garçon que j'admirais beaucoup, c'est vraiment un magnifique one-man-chiste, un engagé, qui osait les choses, qui taclait les gens comme il fallait, puis en même temps un comédien. J'ai eu beaucoup sa période quand il jouait les sketchs avec...
Formidable, Sophie Daumier,
Sophie Daumier, quand il travaillait avec Dabadie, mais quelle horreur cette histoire, tout d'un coup comme ça. C'est fou,
Oui, il y a deux jours, et ils étaient très amis. Il y a une photo qui a été publiée, je crois que c'est par son fils, où on voit pour ses 85 ans, il avait fait venir Belmondo, justement, Dabadie. C'était assez troublant de voir qu'ils sont partis à deux jours d'écart. On voulait vous faire écouter une auditrice qu'on a eue. Vous savez, nos auditeurs nous appellent pour nous raconter ce qu'ils ont regardé la veille à la télé. Alors, elle est fan de vous et elle a un succès énorme dans sa famille parce qu'elle vous imite. Écoutez, Sonia.
À quelle heure, la reine des vérandeurs?
Voilà. Donc elle nous a expliqué qu'elle avait pas de texte, que normalement elle est meilleure que ça, que là elle était imprimée, mais c'est impressionné, mais c'est pas mal quand même.
Mais elle a pas besoin de texte pour m'imiter. En
fait. Et vous êtes vachement imité, non?
Oui, c'est marrant, j'ai avoir une espèce de chose comme ça dans la voix qui inspire les imitateurs, et c'est troublant d'être imité d'ailleurs, parce que d'un seul coup, il dit, c'est vrai, je parle comme ça, putain.
Mais
en même temps, c'est très joyeux d'être imité, c'est pas désagréable.
Vous avez des projets cinéma?
Alors, nous allons tourner, si tout va bien, et pour l'instant, c'est pas annulé à partir du mois d'août, nous allons tourner la suite de C'est quoi cette mamie? Voilà. Voilà, ouais, donc je m'apprête à ça. Puis après, un deuxième film aussi en automne qui sera tourné sur un autre thème. Voilà.
Parce que vous êtes également, on vous connaît évidemment sur scène, mais une formidable comédienne. Moi, je me souviens du film de Lelouch dans lequel vous étiez dans un rôle à contre-emploi. Ouais. Formidable. Donc,
l'inspecteur des impôts, oui.
Absolument, l'inspecteur des impôts. ça fait sourire, mais vous étiez parfaite. Ouais. Un peu barrée quand même. Mais,
barrée, oui.
Ouais. Donc, on vous retrouve demain soir et puis samedi prochain également. Hein, Gilles, pour cette soirée spéciale Festival du Rire de Liège sur C8.
Il y a une deuxième partie Valérie. Ouais. Et il y a une deuxième partie à 23h15 sur les jeunes talents, des talents découvertes qui suivra le programme.
Oui, voilà. Qui est très, très intéressant aussi. Oui. Voilà.
Merci beaucoup Chantal Latsou d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernelet. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. J'étais en train de regarder, bonjour Rémi Pernelet.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Cette information absolument incroyable, Donald Trump, vous savez qu'il y a un débat entre Donald Trump et Twitter, il voulait faire interdire carrément Twitter, et là il a fait un tweet qui disait « je ne supporte pas cette image de ce qui se passe à Minneapolis, vous savez qu'il y a des émeutes », et donc il dit « je vais envoyer l'armée », et donc Twitter a épinglé ce tweet comme incitation à la violence, donc le tweet du président de la République, du président américain, pardon, et donc a placé ce tweet en protéger, c'est-à-dire on ne peut ni le partager ni le liker. Je pense que c'est quelque chose d'assez inédit et assez incroyable.
Oui, hier il a signé, vous avez vu, un projet de loi sur les réseaux sociaux aussi, où il veut évidemment prendre contrôle. D'ailleurs, le président de Twitter lui a répondu sur la liberté et sur l'interdiction, une partie d'interdiction qu'il veut mettre en place sur Twitter.
Oui, Rémi.
Oui, justement, je voulais vous en parler.
C'est c'est ça.
Oui, le président, donc il menace de fermer carrément les réseaux sociaux. Il y a une guerre entre Donald Trump et puis surtout Twitter. Et effectivement, il a fait passer, vous le disiez Gilles, une loi qui pourrait s'appliquer. Et donc, en fait, on constate une grosse pression sur Twitter. Le président de Twitter, Jack Dorsey, a lui répondu qu'il maintenait tout à fait ses positions et que leur principe était d'essayer de contrôler les informations qui étaient diffusées. C'est d'ailleurs une position complètement opposée à celle de Mark Zuckerberg de Facebook, qui lui dit « on n'est pas là pour réguler ». Donc les gens sur Facebook disent ce qu'ils veulent, tant que ça reste dans le cadre de la loi. Ce qui est intéressant, il y avait un article dans le Figaro ce matin qui était assez intéressant et qui montrait comment les GAFA, donc c'est comme ça qu'on appelle notamment Twitter, toutes les plateformes Facebook,
YouTube.
Oui, sont partagées un peu entre l'approche de aux États-Unis de Donald Trump qui veut bien s'en servir, mais qui veut pas qu'il y ait des commentaires sur lui, sa façon de s'en servir, et puis l'approche européenne, puisque la Commission européenne souhaite, au contraire, dans la lutte contre les fake news, exiger des réseaux sociaux qu'ils contrôlent, ils modèrent davantage ce que publient les internautes. Donc en fait, on a Donald Trump qui veut que les réseaux sociaux n'éditent absolument pas les tweets et les contenus. Au contraire, en Europe, et je trouve ça, de mon point de vue, assez légitime, on souhaite que y ait quand même une modération, et notamment sur Facebook.
En fait, aux États-Unis, Valérie et Rémi, il y a une loi qui s'appelle la Communication Decency Act, qui est une loi de 96, qui offre en fait à Facebook, Twitter, YouTube ou Google une immunité contre toute poursuite judiciaire liée au contenu publié. Et c'est l'État qui garantit le fait qu'on ne puisse pas poursuivre par rapport au contenu. Et en fait, le décret que veut mettre Trump, ça modifierait le champ d'application de cette loi et ça permettrait aux autorités de régulation et aussi à monsieur, madame, tout le monde, de pouvoir attaquer aux États-Unis les réseaux sociaux. Il voudrait enlever cette protection qui est évidemment la protection de la liberté de parole, l'enlever pour Twitter. Tandis que dans Europe, en effet, cette loi ne s'applique pas et on ne peut pas tout dire sur les réseaux. Il y a eu la loi Avia pour la France.
c'est tout le débat entre simplement plateforme de diffusion ou éditeur de contenu. Et donc, si on bascule du côté éditeur de contenu, eh bien, là, on s'expose à, effectivement mais, à répondre des contenus qu'on publie. Oui.
Ouais. Mais là, le tweet que je citais, parce que ça va continuer, ça va exacerber cette polémique et cette haine qu'il peut y avoir entre le président américain et Twitter. Revenons en France, Rémi, crise dans les médias, plan d'économie chez RMC Sport, on l'avait évoqué, changement RTL, plan d'urgence pour la presse écrite, ça va mal.
Oui, ça va pas bien, c'est vrai, on avait déjà dit, mais on connaît maintenant le détail, puisque Alain Veil, le PDG d'Altice, c'est la maison mère de RMC Sport, a communiqué exactement ce qui allait se passer. Vous savez qu'il y a 200 personnes, journalistes, monteurs, consultants, dans ce groupe. Eh bien, sur la rédaction proprement dite de 160 personnes, il y aurait 70 personnes qui pourraient se retrouver carrément dehors, hein, j'allais dire. C'est énorme. Alors évidemment, ça c'est à la suite du fait qu'il y a beaucoup de droits télé qui ont été perdus par MC Sport. Ils arrêtent l'athlétisme, ils arrêtent le tennis, ils arrêtent l'équitation, sans doute le basket et les sports de combat. Il y a beaucoup d'émissions qui vont s'arrêter. RMC Sport News, on l'avait dit la semaine dernière, va s'arrêter définitivement, c'est mardi, la chaîne d'info sport. Donc il y a des émissions comme Le Vestiaire, Transversal, qui sont de très bonnes émissions d'ailleurs, qui vont s'arrêter. Et puis dans les consultants, la moitié des consultants vont être remerciés. On sait simplement que Jérôme Roten et Eric Dimeco, par exemple, qui sont d'anciens grands footballeurs, comme vous les connaissez bien, Gilles, je pense.
Dimeco, j'ai bien connu.
Ouais.
Enfin, c'est pas les plus à plaindre, hein. Renault aussi. Hein.
Non,
chez
eux, ils restent.
Ça dégraisse beaucoup.
Ah, bon, ouais. Eux, ils restent, justement. Ils restent en place. Voilà. Après, il s'agit pas de les plaindre ou de pas les plaindre. Il s'agit de constater qu'il n'y a pas seulement les consultants, mais il y a surtout tous les journalistes qui vont se retrouver dehors. RTL, c'est pareil, hein. Vous en parliez, Valérie. Énorme bouleversement. Alors, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Hein. C'est peut-être pour renouveler une partie de la grille, semble-t-il. Mais enfin, Stéphane Bern s'en va.
Oui.
Jacques Pradel aussi,
son
émission, oui. Jacques Pradel, son émission s'arrête, et Thomas Hugues et Sidonie Monette, qui faisaient l'émission d'après-midi, La curiosité est un vilain défaut, ça s'arrête aussi. Alors, l'argument est de dire de faire évoluer la grille. Il y a aussi, je pense, même si c'est pas dit, une idée d'économie. Ben, l'économie, bien sûr, c'est ce qui traverse tous les médias en ce moment. C'est assez compliqué. D'ailleurs, il y a l'Association de la presse d'information générale qui a, vous le disiez Valérie, demandé à ce qu'il y ait un plan d'urgence de mis en place pour la presse écrite. Voilà, hein, 50% des ventes en moins et 70% de la pub en moins.
Oui. Je pense aussi, Rémi, que beaucoup de médias se servent un peu de la crise pour faire des économies, et même s'ils ont perdu beaucoup d'argent, ils se servent un peu de tout ça. Moi, une information que j'ai aussi, c'est que M6 est en train de revendre un de leurs immeubles pour pouvoir faire des économies, et ils sont en train d'imposer
le télétravail, mais le tout dernier immeuble, l'immeuble flambant neuf dans lequel étaient hébergées toutes les chaînes du groupe.
Oui, parce qu'ils sont en train de mettre en place, en fait. Le télétravail.
Oui, bien sûr, mais on peut pas faire comme si la crise économique ne touchait pas aussi les médias. Et quand vous dites ils en profitent, d'un côté on peut dire ils en profitent, d'un autre côté ils sont obligés, ils n'ont pas le choix.
Et puis ils ont aussi une économie effectivement qui
à maintenir. Donc je pense que effectivement les locaux, c'est quelque chose qui pèse assez lourd dans l'économie des médias. Et là je parle plus de presse écrite que peut-être d'audiovisuel, et que le télétravail peut être d'ailleurs une solution qui peut permettre de garder plus d'emplois que si on se retrouvait obligé de supporter tous les coups d'un coup. Donc voilà, je pense que, bien sûr, c'est normal. La crise, énorme crise économique qui touche la France, va aussi toucher les médias. On ne pouvait pas imaginer qu'il en soit autrement. Et aujourd'hui, tous les médias essayent de trouver des solutions pour s'en sortir, j'allais dire.
Donc vous êtes en train de dire que des sociétés comme TF1 ou M6, en seulement 3 mois, elles peuvent être mises capoutes et mises la clé sous la porte. Un groupe comme le groupe d'M6, le groupe Bertelsmann, il peut être mis...
Non, mais
c'est une question
pas,
que je vous pose. Hein, c'est,
non, 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 mais j'ai pas la réponse comptable à l'instant, mais ce que je sais, c'est qu'un mois de rentrée publicitaire, c'est juste énorme. C'est un 12e du budget de donc après, si on est à deux mois, c'est deux douzièmes, c'est un sixième. Bah, ouais. Si vous voulez, on sait que toutes les réserves en deux ou trois mois pour une entreprise, ça disparaît. Ça disparaît. Mmh. Et donc,
On verra effectivement comment tout ça va avancer, mais c'est vrai qu'on voit déjà les bouleversements se produire dû au Covid. Demain nous appartient revient le 15 juin, mais à un horaire différent, Rémi.
Oui, exactement. Alors, on savait que les tournages avaient repris, on savait que ça allait revenir, donc ils reviennent le 15 juin, mais légèrement plus tôt, à 19h20, tout simplement, à 19h10, pardon, au lieu de 19h20, justement, et ça tient compte du fait que le journal de 20h, depuis déjà le début du confinement, démarre en fait à 19h45. C'est une des mesures qui a été prise, ils font un mini journal. Et ils ont du coup la coupure pub et ils peuvent accepter le rendez-vous des applaudissements de 20h qui était sur BFM TV carrément sponsorisé quasiment hein, par des annonceurs. C'est un rendez-vous qui était important. Donc les habitudes d'audience ont fait que ils vont avancer.
Ils vont avancer la diffusion de demain nous appartient.
Et du coup, peut-être on peut dire quelques mots des audiences récentes. Alors, déjà un mot de Didier Raoult sur LCI, son interview David Pujadas, le professeur Raoult, Gilles. Ouais. Écoutez, c'est un carton, 722 000 téléspectateurs, ouais. 5% de part de marché.
Record d'audience pour TF1.
Record d'audience pour LCI. Oui, tout à fait. C'est le record historique de la case, 684 000 pour la totalité de la case. Incroyable. Et sur la journée, ils ont fait plus 2% de part de marché, donc c'est énorme. Mais je voulais dire aussi peut-être quelques mots d'évolution des audiences, parce que vous savez, les deux nouvelles émissions importantes, Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac et puis Qui veut gagner des millions, Cyril Lignac, lui, a fait un record à 2 669 000 téléspectateurs au mois d'avril, fin avril, le 28 avril. Mais depuis 12 semaines, il est passé sous les 2 millions. Le 26 mai, il était à 1 431 000. Et puis hier, encore à 1 465 000. Donc c'est une grosse baisse. Qui veut gagner des millions de l'autre côté, qui a été lancé le 20 avril, donc beaucoup plus tard que la cuisine, a démarré au-dessus des 2 millions, a fait un record à 2 968 000 téléspectateurs le même jour, le 28 avril, comme Tous en cuisine.
Comment vous expliquez que ça baisse comme ça, Tous en cuisine? C'est que les gens en ont marre, ils sont trop grossis, ils sortent.
Non, mais les gens, ils ont cuisiné tous les jours, ils en ont juste marre. Moi, je discute avec des gens qui disaient, je la regardais, l'émission, je faisais les recettes, mais là, maintenant, j'en ai marre. Et donc, je pense qu'ils payent tout simplement le fait qu'on est un peu déconfiné, qu'il fasse beau et que les gens aient le droit de sortir. Donc, c'est un peu logique que ça baisse. Inversement, Qui veut gagner des millions a baissé, certes, mais reste quand même, hier était encore à 2 200 000, donc ils ont encore d'assez bons scores. Et alors, vous voyez, pour conclure sur cette tranche sur M6, Tous en cuisine va être remplacé, c'est logique, Tous en cuisine va s'arrêter, et le 15 juin, c'est Chasseurs d'appart qui revient, qui était à l'antenne avant, 2 mois et demi pratiquement d'antenne pour Cyril Lignac.
Et il va retourner dans ses restaurants.
Oui, il va peut-être quand même essayer de trouver une solution pour continuer de temps en temps. Oui, tout à fait. Oui.
On aura Jérôme Anthony, on lui posera la question. On le reçoit mercredi ou jeudi prochain. Donc, on pourra en parler avec Jérôme Anthony la semaine prochaine, Valérie.
Très bien, merci Rémi. Très bon week-end à vous. On se retrouve dans un instant avec, et merci Gilles, on se retrouve avec Gérard Collard, notre libraire. On peut retourner dans les librairies, donc que peut-on lire? Il va tout nous dire dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et nous sommes avec l'excellent, l'immense Gérard Collard. Bonjour Gérard, comment
bonjour,
ça va?
La merveilleuse Valérie Expert.
Comment allez-vous? Comment va le libraire de la Griffe Noire? On souhaite un bon anniversaire à Jean, votre associé. C'était hier son anniversaire. Voilà. Et vous lui transmettrez de notre part. Comment ça s'est passé cette semaine? Comment ça va dans les librairies?
Très bien, très très bien. Ouais. Les gens sont toujours aussi nombreux. Les commandes Internet explosent. Enfin, voilà, on va pas se plaindre. Hein. C'est après la catastrophe que ça a été pendant deux mois. Les gens ont été au rendez-vous. Ils sont souriants. On a l'impression de leur apporter quelque chose. Ils nous apportent évidemment quelque chose. Mais là, c'est vraiment la surprise. C'est vraiment le plaisir. Ils nous disent merci d'être ouverts. Là, on a l'impression qu'ils ont eu la notion du manque. Parce que, ce qui était une évidence n'est plus devenu là. Donc, c'est génial.
Bon, il faut dire qu'il y a quand même des librairies qui ferment. Hein. On voit régulièrement, c'est annoncé un petit peu partout. On a appris que la librairie Gibert Jeune risquait de fermer, d'ailleurs. Donc, il faut aussi penser, on le fait à chaque fois, mais penser à vos libraires ou à commander sur les sites des libraires plutôt que sur les grandes plateformes, en tout cas en ce qui concerne les livres.
Et c'est là qu'on voit que c'est une grosse crise, hein, parce que c'est pas que des petites librairies. Alors c'est catastrophique pour les petites librairies, hein, parce qu'ils ont pas d'aide, mais on voit qu'il y a des gros bateaux, des énormes trucs qui sont aussi en difficulté et qui ferment. Hein. Donc ça, c'est un symptôme de la gravité de la crise. Et puis il faut que tous les gens en soient conscients et qu'on a besoin d'eux.
Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine?
Alors, je vais vous emmener à Venise. Je sais que vous adorez Venise. Enfin oui. Non, je ne sais pas si vous aimez Venise, mais...
ça ne mange pas de pain, tout le monde aime Venise.
Voilà. c'est Christopher Bolan, vous savez, celui qui... Le magnifique écrivain américain, moi, que j'adore et tout, qui a écrit Long Island, Manhattan et tout ça. Il nous emmène, ça s'appelle Un si joli crime, chez Calman Levy, et il nous emmène à Venise. Alors, ça commence déjà à New York, c'est de jeunes Américains qui sont spécialisés dans l'Antiquité, dans les Antiquités, oui, et qui décident de monter une arnaque et qui vont débarquer à Venise. Alors, vous allez vous retrouver dans un suspense. Le suspense, c'est un prétexte pour nous faire découvrir... il y a tout dans ce livre. Hein, c'est une Venise mélaineuse, mais aussi lumineuse. C'est une Venise, pas celle des touristes, hein, c'est celle des petites rues, des petites gens. Et puis, c'est aussi celle des gens qui ont du fric, c'est Américains qui rachètent les hôtels particuliers, qui veulent faire des opérations. Et là, vous allez partir. Moi, j'ai été complètement charmé par ce bouquin. Je me suis fait complètement avoir. Il y a la mort qui rôde, il y a la passion qui est là. Il y a tous les personnages sont très très forts, très très originaux. Je suis tombé.
Ça se passe à quelle époque?
À notre époque. Et donc, c'est aussi une manière de décrire, vous savez, la pression de l'argent et des trucs immobiliers, les tentatives de fric, de bénéfices sur cette ville, au mépris de tout ce qui fait son charme, des petites gens et tout. Et puis c'est plein de rebondissements, c'est plein de suspense. Je me suis fait complètement avoir. Ça commence comme une jolie histoire de passion américaine qui nous décrit d'ailleurs la société américaine aussi, pas très brillante en ce moment. Et puis vous allez vous retrouver là, j'ai pas la couverture à vous montrer là, mais si vous allez sur le podcast, vous la verrez. Et vous verrez, c'est exactement comme la couverture. Vous vous attachez aux gens. Moi, j'étais très triste de quitter ce bouquin.
Quand ça se termine, ça, c'est le meilleur des arguments. Est-ce que vous avez lu le dernier John Le Carré ou c'est pas votre.
Non, j'ai pas lu. Vous l'avez lu, vous?
Non, pas encore non plus. Donc,
dans mes cartons. Par contre, j'ai lu Alors, je sais qu'il est très snob en ce moment. Alors, je crois que vous n'avez pas trop aimé, mais moi, je trouve que la construction était très bien faite. C'est le nouveau Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Moi, je me suis fait avoir par la construction. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais moi, c'est celui que je préfère de chez lui. C'est Les derniers jours de nos pères. C'est aux éditions de Fallois en poche et c'est un livre extraordinaire. En fait, il reparle d'un service secret qui avait été créé par Churchill dans les années 1940 pour combattre les Allemands. Et c'est une histoire absolument incroyable. On découvre quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il employait des gens, vous savez, qui étaient sur le terrain des autochtones en France, partout, pour déstabiliser les Allemands. Et moi, je trouve que c'est mon préféré. Alors, je sais que Peu de gens le
Non, mais moi
connaissent, mais
j'avais aimé. Oui, non, mais c'est. Moi j'avais aimé les premiers de Dicker. Celui-là, j'ai trouvé encore une fois qu'il était plein de clichés.
Il est un peu long.
Il est long, que la fin est
Il est long.
complètement invraisemblable. Enfin que, je sais pas, j'ai pas retrouvé ce que j'aimais chez lui. Donc
Mais
voilà.
Par contre, allez-y. C'était le prétexte pour parler des derniers jours de nos pères, parce
oui,
que franchement,
absolument.
C'est et ça devrait avoir plus de succès. Je vous ai retrouvé aussi au point vient de paraître un bouquin qui s'appelle Mindhunter. Mind comme
Ah
NDNT
oui,
Hunter.
Absolument, c'était
et
génial.
En fait, c'est l'affaire Bourgoin, vous savez, bon, l'histoire de ce pseudo-spécialiste français des serial killers, en fait, qui a tout piqué, qui a beaucoup pris, qui s'est du livre d'un des plus grands spécialistes mondiaux des serial killers, qui s'appelle John Douglas, et là vient de paraître ça en point, et vous allez, alors là, vous allez voir, vous allez en prendre plein la tête, savoir ce que c'est qu'un vrai profiler. Il vous décrit des choses absolument incroyables, il a fait des choses incroyables, et moi, j'ai de l'admiration pour ce genre de type, parce que moi, je serais devenu serial killer ou je me serais flingué hein, quand on voit l'espèce humaine qu'il décrit. Et c'est un vrai polar. En fait, c'est son témoignage, hein, c'est son histoire. Et quand vous êtes là-dedans, et là, je n'avais pas lu ça. Et quand vous pensez au livre de Bourgoin, vous dites que l'autre est relativement très fade par rapport à ce type.
À la,
on sent qu'il
l'a
dans les tripes. Ouais, il l'a dans les tripes et c'est absolument fabuleux.
Il y a la série aussi sur Netflix.
Ah, bah oui,
Mindhunter. Donc, rappelez l'auteur de Mindhunter.
Alors, il s'appelle John Douglas. Comme Douglas Kennedy.
John Douglas, d'accord.
Mais lui, il a du talent. Et non, je suis méchant. Et c'est chez Point. Et voilà, vous allez vivre une expérience. C'est frissonnant, hein. Je vais vous dire, vous ressortez de là-dedans.
Alors, frissonnant, puisqu'on est dans les polars, le jour où Kennedy n'est pas mort de Ellery, moi j'adore Ellery, c'est paru chez Sonatine. Évidemment, Kennedy assassiné 22 novembre 63, on a tous cette date en tête, sauf que là, dans le livre d'Ellery, bah, il meurt pas. Et on a en même temps une histoire d'un journaliste, d'un photographe qui apprend le suicide de sa fiancée. C'est un petit peu bizarre, donc il décide quand même d'enquêter, il voudrait comprendre, et puis il enquête aussi sur la famille Kennedy, et puis bah voilà, j'ai pas envie de vous raconter la suite, mais c'est vraiment c'est sombre, il y a du, c'est ce que vous aimez, Gérard,
ouais.
Pardon, je vous appelle Gérard.
Ça, c'est votre
Gérard,
pari,
il y a du sexe, il y a de la manipulation, il y a de la politique bien crade,
ouais.
Il a un talent fou.
Il faut un talent fou parce qu'il aurait pu tomber dans les ornières du voilà les clichés et
ouais,
tout ça,
des
et là
clichés
il nous surprend, hein.
Et là c'est vraiment on est complètement pris, on retombe dans les années 70, donc c'est assez marrant. Non, c'est super.
Ouais,
super
fort,
bien
hein,
fait.
Ouais.
Ça s'appelle Le jour où Kennedy n'est pas mort et c'est R.J. Ellery, à ne pas confondre avec Ellroy, que je n'aime pas du tout, moi personnellement.
Oui,
Ellery, c'est E-2-L-O-R-Y, c'est chez Sonatine.
Et n'oubliez pas de relire celui qu'on vous a conseillé il y a quelques temps de Anne James Chaton, qui s'appelle Vie et mort de l'homme qui tue John Fitzgerald Kennedy, qui est un bon complément à la lecture de Ellery. Et vous verrez, vous aurez une grande, grande surprise. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'il a lu d'autre, et il a écrit d'autres. Allez chez Paul aussi, il avait écrit un livre merveilleux. Chez La Pérouse, vous savez, le navigateur qui avait marché moyennement, et vous verrez, c'est un style incroyable. Il a cet art de faire revivre les gens avec beaucoup de vérité, d'intelligence et de finesse, sans emmerder les gens, parce que c'est pas une grosse biographie d'un grand spécialiste universitaire. Vous allez passer un bon moment. Vous avez autre, je peux.
Non, allez-y,
vous
avez tous les droits.
Il y a aussi le livre qu'il ne faut pas oublier au niveau du polar en poche. Il vient de paraître de Dathan Auerbach. Alors, ça s'écrit A-U-E-R-B-A-C-H. Padman, en 18, on l'avait beaucoup défendu dans le coup de cœur des libraires sur Sud Radio. C'est l'histoire de ce petit garçon, de ce jeune homme qui est dans une famille pauvre hein, des États-Unis, et sa mère lui dit d'aller chercher du pain avec son petit frère. Il va dans le supermarché, le petit garçon disparaît, on ne le retrouve jamais. Quelques années plus tard, il est renvoyé dans ce supermarché, et là, il est sûr et persuadé qu'il a vu son petit frère. C'est hallucinant, c'est d'une puissance, d'une ambiance, c'est incroyable. Je trouve que ce bouquin avait eu du succès, mais pas, il n'avait pas le succès mérité. Précipitez-vous ouais, là-dessus.
Là, parce ça, que c'est en collection de poche, donc c'est...
Ouais, c'est pas cher. J'aime bien le sous-titre, c'est Shiny au supermarché, mais je trouve que c'est plus... Bah, à mon avis, c'est plus fort que Shiny. Alors, je vais me faire des ennemis, mais je trouve ouais. que psychologiquement, c'est beaucoup plus
oui, parce que c'est un vrai thriller. C'est, c'est vraiment... Ça s'appelle Bad, B-A-D, comme méchant, Man, M-A-N. La couverture, en plus, était assez réussie. C'était un caddie de supermarché ouais, vide, ouais, donc cet ouais. enfant qui disparaît, ce qui est l'angoisse de beaucoup de parents.
De tout le monde.
Et, ouais, de tout le monde. Et vous ne le lâcherez pas, effectivement. Donc, ça coûte pas cher, 6-7 euros pour un poche.
Ah non, c'est pas cher, merci. Vous avez passé un bon moment.
Non. Eh ben, merci beaucoup, Gérard. Merci à vous.
Bientôt.
À bientôt. Bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec vous et nous dans quelques instants pour commenter l'actualité. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.